Starting Block, le magazine des scènes locales, présenté par Radio Campus Besançon, ouvre son micro à Youless. Everybody got this broken feeling, like the father or the dog just died. Everybody talking to their pockets. Everybody wants a box of chocolates and a long stem rose. Everybody knows. Everybody knows that you love me, baby. Everybody knows that you really do. Everybody knows that you've been faithful. Give or take a night or two. Everybody knows you've been discreet, but there were so many people you just had to meet without your clothes. And everybody knows. Everybody knows. Everybody knows. Everybody knows that it's me or you. And everybody knows that you live forever when you've done a line or two. And everybody knows the deal is rotten. Old Black Joe still picking cotton for your ribbons and your bows. And everybody knows. And everybody knows that the blade is coming. Everybody knows that it's moving fast. And everybody knows that the naked man and woman are just a shining artifact of the past. Everybody knows the scene is dead, but there is gonna be a meter on your bed.
Retour à la plage sur le 102.4, je suis en compagnie de Guillaume Charret du groupe Youless. Bonjour.
Bonjour.
Ça va ?
Oui, très bien.
Ouais.
Ouais, oui.
Bah, merci en tout cas de venir à la plage, c'est très sympa et puis c'est un honneur.
Bah, c'est très agréable, d'autant plus qu'il fait très chaud dans cette plage alors que dehors il fait assez froid, donc c'est plutôt agréable.
Cool. Alors Guillaume, bon, du coup, toi, le groupe Youless, pour resituer un peu, c'est toi et ton frère Bertrand aussi.
Exactement.
Qu'on salue.
Oui. On le salue, et donc ouais, Bertrand qui est mon frère aîné avec lequel on a créé ce groupe en 1999.
Ok, et puis pour vous situer un peu dans tout cet univers musical, qu'est-ce que vous faites et avec quels instruments ?
Eh bien Bertrand, lui est en charge de la basse, des chœurs et puis de la production sonore souvent dans nos disques. Il a souvent enregistré nos albums. Et puis moi je suis guitariste, chanteur et puis auteur-compositeur, sauf sur cet album dont on va parler dans quelques instants.
Et vous avez des formations ou vous êtes autodidacte ?
Nous sommes autodidactes, ouais, ouais.
Enfin, okay.
C'est une formation en soi, évidemment. On a rencontré beaucoup de musiciens qui nous ont transmis des choses. Selon le type de mémoire qu'on a et d'apprentissage, moi je suis plus quelqu'un de visuel. Donc voilà, ça vient vite quand je vois les choses. Mais ouais, moi j'ai essayé un petit peu conservatoire, tout ça, c'est pas trop mon truc.
Faut être solide, quoi.
Ouais, c'est ça. Puis il faut avoir un côté un peu une méthodologie peut-être à appliquer un truc que, tu vois, je sais pas, moi, j'étais pas très heureux à l'école, donc je me suis aussi dit qu'à l'école de musique ça allait être compliqué. Mmh,
bien sûr, oui, bah, surtout si on commence parce que c'est une passion.
Mmh, exactement.
On n'a pas envie de rendre ça fade, quoi.
Oui, on n'a pas envie de rentrer. Moi j'avais cette idée, et j'ai toujours cette idée que la liberté c'est ce qui est le plus important dans la vie, donc du coup, rester libre dans mon apprentissage c'était aussi important. Voilà.
J'ai lu quelque part, c'était sûrement dans votre biographie, parce que j'ai un peu fouiné du coup, que vous faites partie d'une longue lignée de frères musicaux, si on peut dire.
Oui.
Et donc du coup, comment ça a commencé cette histoire entre vous deux, et avec la musique surtout?
On n'était pas frères ennemis, mais on a 4 ans de différence, donc on a eu du mal à se retrouver toute une période. C'est souvent comme ça quand on a une différence d'âge. Et du coup, on s'est retrouvés à un moment sur une musique qui nous était assez commune dans nos backgrounds réciproques, c'était le blues. Donc c'est comme ça qu'on a commencé à faire de la musique ensemble. Moi, je commençais à jouer de la guitare, donc quand on est guitariste, c'est vrai que c'est assez pratique le blues au départ. Puis on a dérivé petit à petit, enfin, notre complicité s'est vraiment faite là-dessus. Et on a dérivé vraiment sur la pop, dans les années, fin des années 90, où on a décidé de se professionnaliser, enfin on a décidé, ça s'est fait vraiment, moi j'étais encore au lycée, donc c'est des choses qui se sont faites d'elles-mêmes, c'était pas un vrai choix.
Oui.
Je quitte mon boulot ou j'abandonne les études, enfin en l'occurrence si j'ai quand même abandonné les études, mais voilà, enfin, j'ai été complètement dévoré, appelé par cette passion musicale, et puis Bertrand lui était déjà sur ce chemin-là, donc voilà, c'était une manière pour nous de nous retrouver. De faire de la musique ensemble.
Ok, et puis il y a des influences de vos parents, on peut dire aussi ?
Bien sûr, oui, ça c'est des trucs qu'on découvre un peu plus tard. Au départ on n'a pas tellement envie d'écouter la même musique que ses parents. Et puis finalement on est un peu rattrapé par tous ces disques qu'ils nous ont fait entendre, en admettant qu'effectivement il y a des vraies perles. Quoi. Mm-hmm. Enfin, surtout qu'ils écoutaient des perles, ils auraient pu écouter du Frédéric François, ça aurait été dramatique. Mais là en l'occurrence on s'est volontiers retourné sur Cohen, les Beatles, Simon Garfunkel, et puis tout ce truc très fort qu'il y avait dans les années 60. Et puis Dylan aussi, oui, il y avait beaucoup de Dylan. Puis quelques trucs français aussi quand même, pas dégueu non plus, donc c'était plutôt un bon terreau pour nous.
Ouais, c'est vrai ce que tu dis, à un moment donné on retourne toujours vers ce grand tiroir un peu poussiéreux là, et on se dit non, mais ils avaient raison.
Ouais, c'est ça, ils ont pas fait, voilà, c'est ça, ils avaient raison, exactement, on consent à l'admettre. Ouais.
Et puis vous avez un nom particulier, j'en reviendrai après tout à l'heure, Youless, donc, qui a des consonances anglo-saxonnes. Il y a des influences anglo-saxonnes, on peut dire ça?
Ah oui, énormément, oui, parce que dans 85 ou 90% de la discographie parentale était ouais, quand même anglo-saxonne. C'est le cas de nos discographies respectives à Bertrand, de nos discothèques respectives, pardon, à Bertrand et à moi. Donc oui, on est vraiment... Moi, c'est ma corde sensible, quoi. Je vibre beaucoup plus dans la musique anglo-saxonne. Alors, il y a des petites exceptions parfois en France, hein, mais c'est quand même... ça ne s'écoute pas de la même manière. Mmh. Enfin, je trouve le texte français et la musique anglaise, je ne sais pas comment on peut dire, anglo-saxonne, ça ne s'écoute pas de la même manière. Pour moi, c'est vraiment des tiroirs... Ça vient tirer des cordes très différentes chez moi. Donc... naturellement, ce qu'on a eu envie de faire, nous, c'est plutôt un univers anglo-saxon, quoi. Enfin, ouais, voilà, ça s'est fait vraiment naturellement. On a essayé un peu en français, c'était vraiment pas notre truc.
Oui, après, c'est ça, faut savoir aussi savoir où tu es le plus à l'aise.
C'est ça. et y compris vocalement, souvent, parce que c'est une question qui revient beaucoup. On nous dit, mais vous êtes français, pourquoi est-ce que vous chantez en français alors? Pourquoi vous chantez en anglais? Pourquoi vous chantez pas en français? Enfin bref, avec une voix comme la vôtre, etc. Blablabla, enfin tous les trucs qu'on peut entendre. Et on dit, bah oui, mais ma voix, comme vous dites, elle sonnerait pas pareil si je chantais en français. Parce qu'on fait pas, enfin c'est des trucs techniques, mais on fait pas appel au même résonateur quand on chante en anglais ou en français. Et si, voilà, enfin à moins de chanter... la langue française avec un accent anglais comme Gérald de Palmas ou des gens comme ça, ce qui n'est pas toujours très, très heureux, mais enfin voilà.
ce serait peut-être un petit bonus pour votre album I'm Your Man Naked de faire toutes les chansons, mais en français du coup.
Tout à fait, ouais. On a longtemps pensé à proposer des doubles albums, en fait, la version française, mais là encore, c'est difficile.
Oui.
Puis respecter le sens, donc ça veut dire faire des adaptations, parce que dès qu'on est trop dans le littéral, dans les adaptations littérales, on n'a plus de poésie, on n'a plus la poésie du texte, quoi. Donc, ouais, on est quand même assez attaché aux sonorités aussi, hein, et les sonorités, elles sont, je sais pas, souvent on dit on a choisi aussi l'anglais comme on choisit un instrument de musique avec lequel on se sent à l'aise, quoi. Pour moi, la voix est un instrument.
Et, ah oui, oui, bien sûr.
Et la voix en anglais, du coup, est un instrument. La voix en français en est un autre. Donc voilà. Alors, il y a des petites exceptions. Des fois, on chante un peu en français. On reprend parfois sur ce répertoire Cohen. On reprend The Partisan, la chanson de le chant des partisans que Cohen avait reprise. Il y a trois couplets en français à la fin, donc voilà, tu vois, parfois ça nous arrive de chanter dans notre langue. Puis et puis aussi en public, on parle pas aux gens en anglais.
Ce serait un peu bizarre.
On pousse pas le vice jusque-là, on se la raconte pas trop, on reste honnête.
Mais c'est ce qui fait qu'on vous apprécie aussi.
Sans doute, bien sûr.
Et du coup, moi, je vous ai découvert dans le programme de la Rodia. Mmh. Je parcourais la liste des invités, enfin des artistes invités. Puis là, je vois votre nom, votre projet. Je ne vous connaissais pas du tout. Je me dis, mon Dieu, mais il y a un groupe qui s'appelle Yules qui va reprendre Leonard Cohen. Et là, ma coloc me dit, non, mais Claire, ça se dit Yules. Donc j'étais un peu effarée de me dire, je suis la seule à ne pas connaître, mince. Et c'est ça, Yules, un nom. Yules, pardon, du coup, je reviens à ma première prononciation.
Tu peux, t'as le droit.
C'est un nom du coup qui a des consonances anglo-saxonnes, mais qu'on prononce à l'espagnol. Ouais, alors c'est quoi, vous avez une esthétique un peu mix en fait dans votre musique, ça fait appel à ça?
Ouais, c'est drôle. Au départ, on a vraiment pas du tout choisi ce nom parce qu'il sonnait anglo-saxon. Voilà. Non, mais c'est vrai, ouais, parce qu'il vient, du fait qu'on voulait un nom de deux syllabes. On voulait quelque chose de court. On était très, très passionné par un groupe belge qui existe toujours, qui s'appelle Deus, et qui lui avait repris son nom du latin. Et puis nous on cherchait notre version, qu'est-ce qu'on pourrait avoir comme nom. Et voilà pourquoi, quand on est tombé d'accord sur YULES, on a décidé de le prononcer Yules. Et même au début, il y avait un accent sur ce E qu'on a décidé d'enlever. La première fois qu'on a fait une première partie d'un artiste anglais qui s'appelle Tom McRae, il y avait son tour manager qui vient nous voir et qui nous dit It's time to go now, Yules. Et il prononce notre nom avec son accent. Et là, on a eu une révélation, on s'est dit, ah, c'est vachement classe notre nom dans la bouche d'un anglais, très classe. Donc, on a décidé que c'était au choix des gens. Donc, tu t'es pas vraiment trompé. Tu as le droit de dire, Yules si tu as envie. Et d'ailleurs, il y a des gens qui nous prononcent comme ça et ça ne nous dérange pas. Voilà.
Chouette. Et donc, vous avez commencé avec deux EP autoproduits, donc Fingerprints en 2003 et Uptight en 2005.
Oui.
Puis, je te raconte ton histoire, c'est assez sympa.
J'adore.
Vous signez chez Woof Trade Publishing Limited Music, et c'est en 2007 que votre premier album, The Release, sort chez Booster, et qui est même salué par la critique, notamment chez Télérama Les Arocs. Qu'est-ce qu'a The Release en plus de ces deux premiers EP? Pourquoi
Mais déjà, je pense que d'un point de vue, pas du style, mais on a vraiment fait un virage acoustique qui est en partie dû à Radio Campus d'ailleurs, puisque pour une conférence de presse de l'Herbanzi, qui nous ont demandé en 2005, ils nous ont demandé de venir jouer à cette conférence de presse, mais c'était dans un bar qui s'appelle, je crois que ça n'existe plus, le Balancier. Et du coup, on a décidé de venir en acoustique parce qu'on était à cette époque-là assez lourd techniquement avec beaucoup de machines, etc. Il y avait des séquences, donc c'était pas possible d'aller dans un bar comme ça. Donc on a travaillé avec Bertrand un set acoustique. C'était un truc qui était au fond de nous depuis assez longtemps. On avait envie de jouer acoustiquement. On n'osait pas trop le faire. Donc on est arrivé avec nos chansons dans des versions inédites. Puis on a découvert à ce concert, qui était plus un concert qu'un showcase, on jouait vraiment après la conférence de presse du festival. Donc il y avait un gros public, enfin c'était chouette. Et on a eu des émotions qu'on avait encore nous jamais ressenties sur scène.
Ah, c'est génial ça pour un artiste.
Ouais, on se sentait complètement nus en fait. Hein. Mmh. On était très cachés derrière nos machines. Et là d'un seul coup, il n'y avait plus qu'une guitare acoustique, ouais, une basse et puis quelques loops. On faisait des boucles en direct. Et on a ressenti un truc voilà, qui était de l'ordre de l'épiphanie, de la révélation. Donc derrière, on a vraiment décidé de prendre ce virage acoustique. D'abord sur scène, et puis donc forcément, il y a de nouvelles chansons qui sont arrivées, l'écriture évoluant vers ce style. Donc le premier album, voilà, The Release, il a déjà qu'il est entièrement acoustique par rapport au premier EP qu'on a fait. Et puis ensuite, il y a aussi l'histoire qu'on avait deux albums qui ne sont pas dans cette liste-là, parce qu'ils ne sont jamais sortis, qui étaient des albums qu'on a enregistrés, mais qui sont restés dans les tiroirs pendant ces années 99-2005, qui ne sont jamais sortis parce qu'on n'était jamais content du résultat, trop exigeant. Enfin, c'est pas que les chansons ne nous plaisaient pas, c'est la version qu'on en livrait en studio. Et elle n'était pas à la hauteur de ce qu'on attendait. Donc c'est aussi la première fois, The Release, qu'on va au bout d'un album et qu'on décide de le sortir. Voilà, tout
simplement. Vous avez concrétisé tout un processus. Quoi.
Exactement. En allant vraiment au bout de A à Z. Ouais. On a vraiment fait les arrangements... Et les prises studio, moi j'ai fait les batteries, on n'a même pas appelé de batteur, on était vraiment deux, un duo pur en studio. Il y a quelques featuring avec des gens qui jouent des cuivres, parce que moi je joue pas de trompette, mais puis sinon tous les instruments c'est nous quoi, voilà, en studio. Enfin en studio, dans une maison.
Oui, mais oui, c'est du DIY en fait.
Voilà, exactement.
C'est génial.
Ouais.
Et puis du coup, depuis, il y a eu un troisième EP autoproduit, donc Absolute Believer en 2010, et deux albums, Strike et Balance, la même année, puis I'm Your Man Naked en 2014.
C'est ça.
Et donc vendredi, 29 ce vendredi, vous serez sur la scène de la Rodia, avec votre travail sur Leonard Cohen. Comment vous avez connu le grand Leonard ?
Le grand Leonard, c'est d'abord des vinyles qui traînaient à la maison de notre père. Et puis bon bah voilà, c'était sa musique, c'était la guitare acoustique, on n'avait pas envie d'écouter ça, donc on écoutait moyennement. Enfin, en plus c'était lancinant, une voix grave, petit, ça nous fascinait pas tant que ça. Et un jour on a vu ce film qui s'appelle Pump Up the Volume, qui parle d'une radio, d'une l'époque des radios libres avec Christian Slater là, qui est film emblématique de l'année 90, je crois. Enfin, Teenage Movie, tu vois.
Ok, hein, je connais pas
donc
du tout.
Donc on a regardé ce film et son jingle d'émission de radio, là, c'était Everybody Knows, donc de l'album I'm Your Man.
Qui était en fond sonore, là, il y a quelques secondes.
Et du coup, donc il y avait plusieurs morceaux de Cohen, il y avait aussi Fit Be Your Will, il y en avait un troisième, je crois. Enfin, il y avait une super BO. Et voilà comment on a pris Cohen. Après, on s'est intéressé au disque, à I'm Your Man, vu qu'il y avait un album qui existait. Et puis là, on a découvert, un chanteur avec des sonorités qui nous parlaient plus à l'époque, puisqu'on voulait, on voulait les sonorités de l'époque. Et bizarrement, voilà, c'est des sonorités qu'on a gommées complètement, nous, sur notre, sur notre version de ces chansons-là. Mais voilà comment on l'a découvert.
Ok, d'accord. Ce que je te disais tout à l'heure, moi je l'ai découvert avec I'm Your Man et c'est sa ringardise qui m'a fait fondre un peu en fait. C'est drôle. Et du coup, il a été revisité cet album en premier en compagnie d'un quatuor à cordes de professeurs à Montbéliard. Et là, à la Rodia, vous serez sur scène en compagnie d'un quatuor, mais cette fois-ci du Conservatoire à rayonnement régional de Besançon.
C'est ça.
Ainsi que d'élèves en art du son au lycée Pasteur. Vous travaillez avec des musiciens de chaque région où vous vous produisez sur une scène, en fait ?
Ben, en principe, oui. C'était la déclinaison de ce premier projet à Montbéliard qui nous a amené à penser le projet avec à chaque fois la rencontre d'un nouveau quatuor. Parce que ben, déjà, c'est plus... C'est plus léger aussi pour nous de voyager, d'aller à l'autre bout de la France à deux ou trois, plutôt que d'arriver avec un quatuor sous le bras. Donc, et puis on aimait bien ce truc de remiser aussi notre projet entre les mains de nouvelles personnes qui amènent une nouvelle sensibilité, un nouveau regard sur, sur les partitions qu'on leur apporte. Donc oui, il y avait ce truc-là. Parfois, on retravaille beaucoup avec ce premier quatuor de Montbéliard, puisqu'on a fait les Eurocaines aussi avec eux. Il y a des, ça nous paraissait évident. On ne fait pas systématiquement la création, Mais là, en tout cas, dans Besançon, c'était plus logique d'utiliser les ressources de ce grand conservatoire.
Bien sûr, oui.
Et donc, par contre, c'est la première fois qu'on va jouer avec de grands élèves qui ont 17 ans, donc qui sont,
ah ouais,
qui sont jeunes et qui ont l'âge... qui ont l'âge de Youless, en fait.
Ok, c'est drôle, ça.
Ouais, ouais, ouais.
Vous avez vraiment créé un chemin à ce projet, puisqu'il y a plusieurs étapes. Il y a le Quatuor de Montbéliard, maintenant il y a Besançon, et ça continuera, j'imagine. Enfin, j'espère.
Ben, oui, nous, on souhaite vraiment... on n'a pas envie de limiter dans le temps ce projet. Mm-hmm. C'est vraiment quelque chose qui peut exister. On est en train d'écrire de nouvelles chansons. Là, donc, il y a un quatrième album qui est en préparation.
Ah.
Et on peut mener ça en parallèle, quoi. Ça n'est pas, c'est toujours, tant qu'on prendra du plaisir et tant qu'on observera du plaisir dans le public, je pense qu'on aura envie de jouer ces chansons-là. L'intemporalité de ces chansons fait qu'il n'y a pas de limite, il n'y a pas de péremption, quoi.
Mmh. Alors j'avais une dernière question qui est personnelle. Du coup, en ce moment on parle beaucoup de swag. Et je me disais, est-ce que revisiter Leonard Cohen, c'est renouveler le swag un peu, entre guillemets?
Mais carrément, je suis d'accord. Pour moi, tu parlais tout à l'heure de l'aspect ringard de un Murman, mais il y a toujours un petit peu de ringardise dans les courants de mode, quoi.
Il faut les exploiter.
Une casquette surdimensionnée, des lunettes oversize, c'est un peu ringard, quoi, mais ça revient à la mode. Donc c'est ça qui est intéressant. Moi, je pense que quand on aime... pour nous, il est jamais... il a toujours été à la mode, finalement. On l'a toujours écouté, Cohen, même à notre insu, à certains moments.
Bien heureusement.
Voilà, bien heureusement, exactement. Oui, je pense qu'il y a quelque chose de swag. Et d'ailleurs, je l'avais vu sur scène... à Colmar, il avait 75 ans, donc c'était il y a 5 ou 6 ans, et c'était un public vraiment de 7 à 77 ans, quoi.
Ah ouais.
Donc, on était tous là, je crois, pour vivre un moment incroyable qui a été à la hauteur de nos espérances, peut-être même plus haut que nos espérances. Donc, oui, il parle à toutes les générations. Enfin, mm-hmm. Je pense que c'est assez. Et on voit aussi ce truc intergénérationnel, quoi. Et c'est ça, je crois, les bonnes chansons, c'est quelle que soit la forme finalement qu'elles prennent, si un ce fond authentique, sincère, ça va forcément aller dans le cœur des gens. Enfin, tu vois, c'est il y a des courants de mode qui sont tellement que de la forme que ça a vite fait de passer.
Ce sont des étoiles filantes, comme disait,
ouais,
un ami.
C'est ça. Et puis il y a les planètes, quoi, qui sont toujours là.
Bah.
Et lui, c'est une bonne grosse planète,
ouais,
tu vois.
Oui, non, mais si, c'est vrai, t'as raison. Comme le fut Prince, peut-être.
Ouais,
je sais pas,
ouais,
si
ouais, bien sûr, bien sûr. Ouais. On a joué il y a pas longtemps là pour un petit showcase au Forum, magasin de Besançon. Puis du coup, c'était le surlendemain de la mort de Prince. On a du coup fait une petite chanson de Prince pour lui rendre hommage entre deux chansons de Leonard Cohen.
Ah, génial. Ah, vous faites des petites surprises aussi.
Ouais,
ça, c'est sympa.
On a des espaces de liberté qui nous le permettent, donc oui. Voilà, on sort un peu du cadre, c'est bien.
Bah, il faut casser un peu la routine aussi.
Exactement, puis se mettre en danger sur un morceau qu'on a répété même pas 10 minutes.
C'est bien, ça vous donne confiance. Ça.
Exactement.
On va s'écouter un petit morceau pour se dire au revoir. Tout à l'heure, on a écouté Jazz Police, donc qui repasse là. C'est lequel, alors, ton deuxième préféré?
Moi, j'aime bien I Can't Forget, parce que
ouais,
c'est pareil, ça fait partie de ces morceaux qui sont pas hyper, hyper repris. Parce que voilà, on connaît tous Alléluia et multi-repris, y compris dans des trucs de télé-réalité. A Murman a été un peu repris aussi.
Oui, c'est une des plus connues.
Ouais,
aussi.
First We Take Manhattan aussi, Take This Waltz. Donc du coup, oui, les morceaux les moins évidents et ceux qui nous ont demandé peut-être un peu plus de fil à retordre aussi, finalement, sont des bonnes surprises à l'arrivée.
girl. I smoked a cigarette and I tightened up my gun. I said, this can't be me, must be my double. And I can't forget, but I don't remember what. I'm burning up the road, I'm heading down to Phoenix. I got this old address of someone that I knew. High and fine and free, you should have seen us. And I can't forget, I can't forget, I can't forget, I can't forget, but I don't. I can't.